93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
Vous écoutez Radio Campus Paris et vous retrouvez tout de suite à la petite consultation entre amis.
C'est fini, on a fait tout ce qu'on pouvait.
Petite consultation entre amis. L'émission de santé totalement décomplexée, le samedi à 17h30 sur Radio Campus Paris.
Bienvenue à toi, cher patient, dans le cabinet de consultation un tout petit peu déjanté de Radio Campus Paris, dans lequel nous disséquerons cette semaine l'actualité, en commençant par plein d'autres de se ruiner chez les ostéos, et c'est l'astuce santé-bonheur du docteur Julie. Les infos qu'il faut, ce sera avec le docteur Marion. Courir comme un dératé, c'est l'info, l'expression rigolote avec le docteur Adrien. Le mot du soir est nyctalope et péter ou rire. Pourquoi choisir, docteur Julie? Vous êtes allé sur les forums internet pour vous et on conclura l'émission avec les tant attendus brèves de salle d'attente. À vos stéthoscopes, la consultation peut commencer. Ça y est, enfin en direct sur le plateau de Radio Campus Paris avec cette, pour cette première une belle brochette de spécialistes. Docteur Julie, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, et on l'entend d'ailleurs, la voix chaude et suave de Radio Campus Paris. Tout va bien?
Est-ce que ça va? Oui, ça va pour moi.
Oui, ça va pour vous. Si ça va pour Julie, ça va pour tout le monde. Également pour notre docteur Adrien, bonsoir.
Bonsoir, docteur Loïc.
Alors vous êtes donc spécialiste de tout?
Absolument.
Et surtout de rien d'ailleurs, nous
également.
Dit-on. Également. Et enfin, docteur Marion, notre docteur tête de bois.
Bonsoir, Loïc.
Bonsoir, docteur Marion. Allez, avant tout ça, on se fait un petit tour de l'actu santé.
C'est la principale info de la semaine, Loïc.
Et effectivement, dès aujourd'hui, votre médecin traitant sera peut-être en grève. Les syndicats et fédérations de praticiens appellent à un arrêt de l'activité pour protester contre le projet de loi santé de la ministre Marisol Touraine. En effet, les nombreux syndicats des médecins, alors le syndicat des médecins libéraux, la fédération des médecins de France, le Bloc, qui est le syndicat des chirurgiens, invitent les spécialistes libéraux à fermer leur cabinet dès aujourd'hui, tandis que MG France, Médecine Générale France, principal syndicat des généralistes, appelle lui à la grève lundi prochain. Enjeu, vous l'avez sans doute entendu parler, la question du tiers payant généralisé, contre laquelle les médecins sont farouchement opposés. Selon eux, en effet, l'élargissement du tiers payant à tous les Français leur permettrait pas de se faire débourser, qui leur permet pardon, de ne pas avoir à débourser d'argent quand ils se rendent chez le docteur, risquerait de déresponsabiliser le patient et de multiplier la charge de travail des praticiens. Les médecins pointent également du doigt les tarifs imposés par l'État, 23 euros par consultation aujourd'hui, qui sont nettement inférieurs à ceux pratiqués par les spécialistes. À en croire les syndicats, la mobilisation devrait être largement suivie. Il y a encore énormément de cabinets qui m'annoncent des fermetures de 2 ou 3 jours et quelques-uns pour toute la semaine, assure Claude Leicher, qui est le président de MG France et qui insiste également sur la quasi-unanimité qui règne parmi les syndicats.
Comment trouver un médecin en cas de besoin, Loïc?
Alors bonne question Marion, et en attendant, les patients malades ce week-end ne pourront probablement pas compter sur leur médecin habituel pour se faire soigner. Alors en cas d'urgence, plusieurs alternatives existent. D'une part, le site de l'assurance maladie en premier lieu propose un annuaire de praticiens, les agences régionales de santé pouvant réquisitionner des professionnels en fonction des besoins. La prise en charge des patients devrait donc être assurée. Deuxième solution, c'est SOS Médecins, joignable au 32 64. Avec un bémol toutefois, un grand nombre des associations locales qui composent SOS Médecins ont décidé de se joindre également au mouvement de protestation. Sinon, troisième choix et dernier, et seulement uniquement en cas d'urgence, c'est le SAMU, le numéro 15. Et même si vous n'arrivez pas à trouver de médecin disponible, eh bien le SAMU restera de toute façon ouvert et pourra vous orienter vers un autre praticien dont le cabinet sera ouvert.
Les cigarettes électroniques font encore parler d'elles cette semaine avec de nombreuses anomalies sur la sécurité.
Effectivement, la Direction Générale de la Concurrence, accrochez-vous, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, autrement dit la DGCCRF, a constaté de nombreuses anomalies concernant la sécurité des cigarettes électroniques, selon les résultats d'une enquête publiée mardi dernier. Alors, cette enquête réalisée en 2014 a conduit à une campagne de vérification et conclut à une non-conformité de 90% des liquides prélevés et de près de la totalité des chargeurs. Concernant les recharges de liquide, cette instance met en évidence de nombreuses anomalies d'étiquetage ainsi que des produits non conformes et ou dangereux. Alors, sur les 110 analyses chimiques effectuées sur les liquides, la DGCCRF, bref, a relevé que 90% des produits étaient non conformes, l'étiquetage n'étant pas adapté à la composition du produit analysé, comme par exemple sur la présence ou le taux de nicotine. 6% de ces produits ont été jugés dangereux pour des motifs d'absence d'étiquetage de danger et d'absence de dispositifs de fermeture de sécurité pour enfants. Et sur les 14 modèles de chargeurs analysés, 13 ont été déclarés non conformes, dont 9 dangereux en raison des risques de choc électrique liés à un défaut d'isolation. Bref, la DGCCRF précise avoir procédé à plus de 1300 saisies de produits non conformes et dangereux et à plus de 56 000 retraits ou rappels de la commercialisation. Des procédures contentieuses ont été établies parallèlement. Alors l'organisme annonce également qu'il va continuer ses enquêtes visant à contrôler ce secteur d'activité. Alors si on fait un petit point sur les cigarettes électroniques, 5 ans après son arrivée sur le marché français, la cigarette électronique est aujourd'hui adoptée par 3 millions de personnes en France, donc 6% des 15-75 ans, dont la moitié vapote quotidiennement, même si l'engouement se stabilise aujourd'hui. Alternative au tabac pour les uns, mais avec des effets potentiellement toxiques pour les autres, elle suscite de vifs débats jusque dans les revues scientifiques. Et d'ailleurs, le dernier épisode a semé le trouble. En août dernier, le 19 août, un rapport du Public Health England, le PHE, qui dépend du ministère de la Santé britannique, a affirmé que la nocivité de la cigarette électronique est environ 95% moins grande que celle du tabac. Plutôt bonne nouvelle. Alors, sans minimiser d'éventuels risques, ce fameux rapport estime qu'il est 20 fois moins important que ceux liés au tabac. Et c'est notamment la professeure Anne McNeil et l'une de ses co-auteurs qui y voient un moyen efficace pour arrêter de fumer. Malheureusement, 2 semaines plus tard, l'éditorial du Lancet du 29 août, intitulé « Des preuves fondées sur la confusion », a quelque peu terni l'affirmation précédente en parlant de précipitation et d'un travail méthodologiquement faible. Surtout parmi les 185 références sur lesquelles le rapport se fonde, The Lancet pointe une étude coordonnée par le docteur David Newt, pour ne citer que lui, publiée dans la revue, et j'arrête de vous perdre avec tous ces noms de revues, European Addiction Research, fin 2014, qui précise les liens d'intérêt pour 3 des 12 auteurs. Donc voilà, donc ça sent pas très bon pour la cigarette électronique. Bref, tout ça pour vous dire que, a priori quand même, la cigarette électronique reste de toute façon moins dangereuse que la vraie cigarette, mais le bon conseil est quand même de ne pas fumer du tout. Et on se retrouve avec l'astuce santé bonheur. Docteur Julie, vous en avez plein le dos de vous ruiner chez les ostéos.
En effet, mon cher Loïc, cette semaine, je me suis réveillée en ayant mal aux vertèbres. Va voir l'ostéopathe, me suis-je dit, mais voilà, en tant qu'étudiante, il est souvent difficile de dépenser beaucoup d'argent dans les soins et les séances d'ostéopathie ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale. Elles coûtent en moyenne 70 euros sur Paris et 50 euros en province.
Mais alors, comment trouver des séances d'ostéopathie moins chères, docteur Julie ?
Alors, si vous souhaitez bénéficier d'une séance d'ostéopathie à moindre coût, vous pouvez vous rendre dans la clinique d'un établissement de formation en ostéopathie. En effet, toutes les écoles d'ostéopathie possèdent une clinique qui permet aux étudiants en fin de cursus de pratiquer sur de véritables patients.
Mais alors, c'est pas un peu risqué quand même de se faire soigner par des étudiants, soigner et puis manipuler finalement, docteur Julie ?
Alors, bien que ces praticiens ne soient pas encore des professionnels expérimentés, ils sont capables de réaliser des séances efficaces, d'autant qu'ils sont supervisés par un tuteur qui est ostéopathe professionnel et formateur.
Alors, comment on prend rendez-vous dans cette fameux institut, docteur Julie ?
Contactez une école proche de chez vous. Vous trouverez petit malin toutes les infos nécessaires sur l'Internet. On vous demandera de payer une modeste cotisation annuelle, variable, mais pouvant être par exemple de 20 euros. Vous paierez ensuite 10 euros votre séance.
J'adore que vous vous appelez petit malin, docteur Julie. En tout cas, merci pour ces riches infos qui paieront sans doute à nos auditeurs radins. Docteur Marion, je sais que vous avez des choses à nous dire. Surtout, vous avez des infos qu'il faut. Et on parle journée mondiale, conférence.
Tout à fait. Donc demain, très important à retenir, la journée mondiale des aveugles et des malvoyants. Qui aura lieu donc ce dimanche. Dans ce cadre-là, je vous invite surtout à retenir une autre date, le jeudi 8 octobre, où l'Institut National des Jeunes Aveugles, qui est situé à Invalides, propose un concert expérimental avec un groupe de 5 personnes de voix a cappella.
Donc a cappella qui ne signifie pas dans la chapelle, hein.
Exactement.
Si je peux me permettre.
Exactement. Voilà. Et donc, ce concert est proposé donc, dans l'enceinte même de l'Institut. Il y a un prix étudiant qui est de 15 euros. Et vous pouvez retrouver l'ensemble des informations de ce concert sur le site donc, de l'Institut National des Jeunes Aveugles, www.inja.fr.
Merci, donc ça c'est la première info. Et puis on a une conférence également à ne pas rater.
Tout à fait, on peut même parler de colloque, Loïc. Et ce colloque aura lieu donc mercredi 7 octobre, la semaine prochaine. Un colloque qui s'appelle donc Précarité, Pauvreté, Santé, organisé par le Secours Populaire et par l'Académie Nationale de Médecine. Elle aura lieu donc de 10h à 17h30 dans l'enceinte de l'Académie Nationale. Et c'est une conférence qui parlera en fait, qui permettra de débattre autour de l'accès aux soins des personnes vulnérables, au sens large, les dispositifs qui existent et effectivement débattent sur leurs limites. Voilà, et donc effectivement le processus d'inclusion des personnes précaires dans ce système de santé que nous avons en France. Et vous retrouvez l'ensemble des informations sur le site de l'Agence Régionale de Santé Île-de-France.
Donc ARS Île-de-France pour ces infos et pour ce colloque. Merci beaucoup docteur Marion pour ces actus et les infos qu'il faut. On écoute notre première page de musique. Vous écoutez toujours Radio Campus Paris et on retrouve Burning Bridge de Spiro.
Thank you.
C'était Burning Bridge de Spiro et vous écoutez toujours Radio Campus Paris. C'est une très bonne idée et vous êtes sur les petites consultations entre amis. Et c'est l'heure, docteur Adrien, à 17h46, de nous parler de votre expression rigolote qui est...
Qui est aujourd'hui courir comme un dératé, docteur Loïc.
Alors, courir comme un dératé, ça signifie...
Eh bien, ça signifie courir très vite, hein, c'est quand même assez répandu.
Ouais, ça,
Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont au courant.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'origine. Vous êtes allé chercher l'origine de cette expression.
Alors voilà, et à l'origine, si vous vous êtes un jour ou l'autre adonné aux joies de la course à pied ou du jogging, il vous est très certainement arrivé d'avoir un point de côté, docteur Loïc.
Ah oui, ça oui, enfin, je fais pas beaucoup de course à pied, mais en tout cas, les filles peuvent témoigner.
Ben, c'est-à-dire que vous-même en marchant, du coup, vous avez
des points de côté. Oui, j'ai des points de côté juste en marchant, juste en parlant, là, je suis saisi par des points de côté.
Voilà, voilà, donc imaginez un petit peu le trouble
c'est
des gens
fou,
qui courent.
C'est fou, ces gens qui courent.
C'est incroyable. Alors en fait, à l'époque, les anciens étaient persuadés que c'était la rate qui était à l'origine de cette douleur. Et ils imaginèrent des décoctions diverses et variées destinées à leurs athlètes, ayant pour but de consumer la rate justement, et de leur permettre de courir sans subir ce désagréable phénomène. Alors ces préparations, elles devaient être prises pendant plusieurs jours avant les épreuves, tout en faisant un régime sans graisse, et la diététique était née. Docteur Loïc, et que de progrès depuis, n'est-ce pas ?
Ah, c'est fou, c'est fou. J'aime qu'on vous envoie, qu'on vous amène si loin,
ouais, écoutez,
si loin, docteur Adrien.
Il faut ajouter un petit peu de culture, quand même.
Exactement, tout à fait.
Alors, par la suite, à la fin du XVIe siècle, avec les progrès de la médecine, certains chirurgiens prétendirent que l'homme vivrait bien mieux s'il se faisait dérater, enlever cet organe en apparence inutile.
Ah, d'où l'expression dérater, enlever la rate.
Exactement.
Pas mal, bien
exactement.
Joué.
Donc de nombreuses expériences menées sur des chiens montrèrent qu'ils ne mouraient pas. En tout cas, pas tout de suite. Mais bien suffisamment, bien assez rapidement pour qu'aucun cobaye humain ne soit prêt à se faire charcuter. Alors si l'idée de courir comme un dératé est très ancienne, ce n'est qu'au début du 19e siècle que l'expression est attestée pour la première fois. Et pour finir, je vais vous dire une petite chose. Je suppose que, comme moi, vous avez encore votre rate, docteur Loïc, docteur Marion, docteur Julie.
Bien sûr.
C'est un peu personnel, ce genre de questions. Je trouve que c'est un peu personnel.
Mais il faut savoir se dévoiler.
Ouais, oui,
hein.
Bon, ok, j'ai encore ma rate.
Moi aussi.
J'ai encore ma rate. Mais on peut vivre sans rate, c'est ça ?
On peut vivre sans rate, tout à fait. Mais si on appelle un dératé quelqu'un qui n'a plus de rate, on peut facilement en déduire que nous sommes tous, désolés de vous l'apprendre aussi brutalement, dératés.
Des ratés en un seul mot.
Ah bah. Non, en deux mots, docteur.
En deux mots, ah là là.
Des
merci,
DES,
oui, j'avais compris.
Ah bah, ça fait plaisir. On rigolait tout à l'heure sur courir, etc. etc. On rappelle juste effectivement les recommandations du PNNS, du Plan National Nutrition Santé, qui recommande 30 minutes d'activité physique par jour. C'est dit, en gros, aller marcher 30 minutes. Et c'est bon pour la santé. Docteur Marion, c'est à vous avec le mot du soir. Là, il est un petit peu le mot du médecin et qui est un peu bizarre, ce mot du soir.
Oui, Loïc, tout à fait. Enfin, vous en jugerez par vous-même. Effectivement, ce soir, nous allons parler de nyctalope.
Mais toi-même, enfin vous-même.
Loïc, je ne vous permets pas.
Nyctalope est un vrai mot, disons-le. C'est un mot même quasiment médical.
Tout à fait.
Et vous allez nous expliquer. Vous allez nous expliquer ce que c'est.
Exactement. Donc, nyctalope, en fait, c'est une affliction qui n'est pas si connue que ça. Hein, c'est ce qu'on vient de dire. C'est assez simple. Un nyctalope, en fait, est une personne qui voit mieux dans le noir et dans la pénombre que les autres.
Mais alors, pourquoi ?
Alors, pourquoi elle voit mieux dans le noir ? Ça va vous rappeler les cours de SVT au lycée.
Alors, c'était il y a très peu de temps. Hein. Genre, on en sort tout juste.
On en sort tout juste, donc on s'en rappelle très bien. C'est une histoire de cônes et de bâtonnets, en gros. Les cônes gèrent les couleurs et les bâtonnets réagissent à l'intensité lumineuse. Et chez les nyctalopes, on retrouve une proportion beaucoup plus grande que la moyenne de bâtonnets. Du coup, très simplement, quand la lumière est faible, ils voient mieux que nous. Par contre, ils perçoivent plus difficilement les couleurs. Et du coup, voit moins bien en plein jour. D'ailleurs, dans le noir, les nyctalopes ne voient pas plus les couleurs, mais ils repèrent surtout les formes des objets grâce à la lumière, même très faible, parce qu'en fait, c'est la lumière que les objets renvoient. Et il n'y a pas que les humains qui sont nyctalopes, il faut le savoir. Les chats, par exemple, le sont. Ils arrivent à se déplacer beaucoup plus facilement que nous dans la pénombre. Et effectivement, c'est pour ça, Docteur Julie pourra en témoigner, que la nuit, ils arrivent facilement à sauter sur votre tête et à vous palper le front pendant votre sommeil, car les chats sont profondément vicieux par nature.
Ça, on le sait, les chats sont salauds. Hein. Ça, il faut le dire.
C'est des salauds.
Ce sont des créatures ignobles.
Il faut dire.
Tout à fait. Et donc, pour terminer là-dessus, puisqu'on parle de voir dans le noir, j'ai découvert quelque chose d'assez étonnant, en fait, en préparant cette petite chronique. Je ne sais pas si vous êtes au courant et si vous le savez, Loïc, mais... Bon,
je
sais que
si, hein.
Voilà,
on va faire comme si
Loïc savait, comme s'il n'avait pas vu la préparation de la chronique.
Je ne sais pas.
Voilà.
Là, vous avez testé mes talents de comédien.
Il est bon acteur. Eh bien, pas mal d'historiens s'accordent à dire que ce n'est pas du tout pour masquer des blessures que les pirates portaient une œillère. Voilà, c'était en fait pour leur faciliter le travail et parce qu'ils passaient régulièrement en fait du pont aux soutes et donc de la lumière à l'obscurité, et d'avoir cet œil couvert leur permettait de s'habituer plus facilement à la pénombre et du coup de travailler beaucoup plus rapidement dans ce cadre-là. Et de là,
on peut en tirer des conclusions.
Je ne vous permets pas. En tout cas, on peut se poser la question sur l'usage qu'a pu en faire Jean-Marie Le Pen dans les années 70. Je vous laisse, évidemment, chers auditeurs et chère équipe, seul juge.
Merci en tout cas pour ces pirateries, docteur Marion. Heure 52 et on aime cette chronique. Docteur Julie, vous êtes comme toutes les semaines, on en rit d'avance. Vous êtes allé fouiner d'ailleurs sur les forums internet et vous avez trouvé la perle de la semaine, et c'est avec ou sans santé.
Oui Loïc, en fouillant les internets cette semaine, j'ai trouvé l'appel à l'aide de Mélodie du 5-6. Alors le message de Mélodie est le suivant. Bonjour tout le monde, c'est la première fois que j'écris ici car je n'ose pas en parler autour de moi. J'ai un problème qui devient de plus en plus gênant. Effectivement, je ne peux pas m'empêcher de péter quand je rigole.
Est-ce que docteur Julie, vous pouvez nous faire la voix de Mélodie ou pas? Est-ce que c'est possible?
Bonjour tout le monde, c'est la première fois que j'écris ici car je n'ose pas en parler autour de moi. J'ai un problème qui devient de plus en plus gênant. Effectivement, je ne peux m'empêcher de péter quand je rigole. J'arrivais jusqu'à maintenant à me contrôler en m'entourant de personnes pas vraiment drôles, voire même plutôt sinistres. Malheureusement, j'ai trouvé un travail de standardiste dernièrement et mon patron est quelqu'un de très jovial, un véritable bout en train. Il n'arrête pas de me faire rire. C'est très gênant. En quelques jours, je suis devenue la fille qui pète. J'ai peut-être jamais autant ri de ma vie qu'en ce moment, mais en même temps, je n'ai jamais été aussi malheureuse. Si quelqu'un a ce problème, merci de m'aider.
Donc c'est véritablement extrait d'un forum santé.
Oui, absolument.
Et là, docteur Julie, vous reprenez votre casquette de professionnel et vous allez répondre à Mélodie.
Complètement, complètement. Alors, les flatulences sont des gaz provenant de deux sources. Exogènes, l'air avalé, oxygène, azote et dioxyde de carbone, et endogènes, les gaz produits par des bactéries et des levures vivant dans le système gastro-intestinal lorsqu'elles dégradent des résidus alimentaires. L'émission des gaz par l'anus est naturelle chez l'être humain. Une personne en bonne santé aurait 12 à 25 flatulences par jour. Elles peuvent être odorantes puisque les bactéries intestinales produisent plusieurs substances contenant du soufre. Alors, quelques conseils, Mélodie, pour tenter de limiter vos gaz. Alors tout d'abord, il est important de bien mâcher et prendre son temps lors des repas. Il est également important d'éviter les boissons gazeuses. Évitez également les chewing-gums et arrêtez la cigarette. En effet, on risque d'avaler de l'air. Un autre conseil, diminuer les fibres crues ou insolubles, comme le sont, et privilégier des légumes et fruits cuits, parce que la cuisson dénature les fibres et favorise la digestion. Mieux vaut également éviter certains aliments fermentescibles et connus pour être gazogènes, comme l'artichaut ou les haricots blancs. Voilà, voilà.
Merci beaucoup, docteur Julie. En tout cas, on souhaite de tout cœur à Mélodie de pouvoir rire à nouveau au travail, et on a même envie de dire dans la vie en général. À 17h55, vous l'attendez, les brèves de salle d'attente, le principe il est simple. Les chroniqueurs que vous êtes, vous ne connaissez pas les brèves, qui sont des brèves un peu insolites évidemment, santé. Et partons tout de suite en Turquie, alors c'est pas très drôle mais quand même, Abdullah Kozan malheureusement est décédé à l'hôpital, mais avec, ouais c'est pas très marrant dit comme ça, mais par contre du coup il a un record, en tout cas un record turc, lequel?
Un record lors de son décès.
Il n'est pas déjà mort.
Non, c'est pas Pascal Sevran qui était mort, rappelons-le, deux fois, qui avait été annoncé deux fois mort. Non.
Qu'est-ce qu'il a bien pu faire?
Il a mis le plus de temps à mourir.
Alors, il a... Alors c'est pas loin, on n'est pas loin. Je vous aide quand même, il souffrait d'asthme et de diabète quand il avait été admis pour la première fois dans cet hôpital.
Ah, il est resté dans l'hôpital avant de décéder. C'est le record du monde de la personne qui est restée dans l'hôpital.
Record du monde. Non, en tout cas, record turc.
Record de l'hôpital.
Turc. Ouais, alors combien de temps il est resté à l'hôpital, hospitalisé? Et alors la raison est extraordinaire.
Il est resté mort sans que personne s'en aperçoive pendant
Non, il est resté vivant.
Il était vivant.
Il est mort il y a pas longtemps. Il est mort la semaine dernière, paix à son âme. Mais par contre, il a été hospitalisé en 1968. Et il n'a jamais quitté l'hôpital. 47 ans. Et alors quand on regarde...
Plan radin.
Exactement. Et en fait, alors la raison est extraordinaire, il n'avait, je cite l'article, aucun autre endroit où aller et s'entendait très bien avec le personnel de l'établissement. Donc au conflit des employés. Et donc, il faisait partie de l'hôpital, nous le protégions parce qu'il avait la carte verte. Alors la carte verte, c'est la petite carte manifestement émise par la sécurité sociale turque pour les plus démunis. Voilà, donc malheureusement, il est décédé. Mais 47 ans d'hospitalisation, c'est plutôt pas mal.
Oui, c'est plutôt pas mal. On pourrait utiliser ça comme exemple au colloque précarité, pauvreté et santé.
Exactement. Merci Marion. Je vois que vous faites du lien entre les chroniques. Allez, au Royaume-Uni, ça y est, vous allez pouvoir, enfin toute l'équipe, on va pouvoir aller au village de Bourneville. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Parce que ça faisait 120 ans qu'ils avaient arrêté suite à une vieille tradition. De faire quoi, justement?
De chasser le touriste?
Non, de pas chasser le touriste.
Des hôtels.
Ah, c'est pas les hôtels.
C'est un rapport avec le tourisme.
Non, c'est un rapport plutôt avec l'équipe, j'ai l'impression.
Avec nous?
Avec vous.
D'accord.
Ouais. Chasser
la radio. Il n'y avait plus aucune radio.
Non, c'était pas la radio, non. C'est un peu plus personnel, j'ai l'impression.
Là là.
C'est plutôt
arrêtez
en lien
de
avec.
Rire, arrêtez
non,
de rire.
Pas arrêter de rire. C'est plutôt en lien avec la consommation.
La cigarette.
Et c'est pas la cigarette, non?
Ah, la drogue?
Non, pas la drogue. Pas du tout la drogue.
Manger.
L'alcool.
L'alcool, exactement.
Je ne permets pas.
120 ans. Donc, ils ont décidé de mettre fin à une tradition vieille de 120 ans en autorisant la vente d'alcool sur son territoire. L'interdiction datait de 1890.
Ça veut dire que c'est la ville qui avait le pouvoir de décider ça.
Ouais, a priori. En tout cas, la vente d'alcool était interdite dans la ville. Et donc là, effectivement... alors certains conseillers locaux du coup regrettent cette décision catastrophique qui va à l'encontre d'une histoire vieille de 120 ans et en mettant en avant des comportements antisociaux, de crimes, de désordre si on remet l'alcool.
Ça va booster l'économie locale.
Exactement,
les temps changent.
Tout à fait, c'est que certaines personnes se sont déclarées très heureuses d'une décision qui va leur permettre de répondre à l'attente de ses clients et sauver des magasins, des commerces, notamment en revendant de l'alcool. Alors on le rappelle quand même, hein, du coup la consommation d'alcool c'est avec modération.
Absolument.
En tout cas c'est les conseils de santé publique.
Qui
avec consommation, je sais pas, avec modération.
Ah,
et j'ai dit avec consommation.
Non,
avec modération.
Je me demandais avec qui.
Allez, une dernière, on a 30 secondes pour une dernière brève. Au Japon, SoftBank, qui est donc le créateur du robot Paper, je ne sais pas. C'est un robot japonais. Alors, il déconseille quelque chose dans la notice, c'est assez drôle.
Est-ce que c'est sexuel, Loïc?
Oui, c'est sexuel.
Il déconseille la fellation.
Alors, pas la fellation.
La fellation du robot. Mais
voilà,
sûr,
alors
Adrien,
en tout cas, il déconseille tout acte sexuel. Et ça a été
avec un robot.
Avec le robot. Ils l'ont précisé dans la notice.
Et donc pourquoi ça, parce que ça endommage le robot? Ça peut blesser l'utilisateur?
Alors, je sais pas, ça a enflammé effectivement les différents réseaux
sociaux. Enflammé ou
inflammé? Les deux. Les deux, a priori. Merci en tout cas, docteur Adrien. Allez, il est 17h59. Eh bien, c'est déjà la fin de petite consultation entre amis. On se retrouve la semaine prochaine, 17h30, 18h. À la réalisation cet après-midi, il y avait notre cher Étienne autour de la table. Vous les avez entendus, nos chroniqueurs de choc. Vous retrouvez plus d'infos sur radiocampusparis.org. Vous pouvez même podcaster l'émission sur l'onglet petite consultation entre amis. Ne lâchez pas l'écoute de Radio Campus Paris. Juste après nous, à 19h, il y a Tropical Club. Et c'est la première de leur émission musicale. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous, salut.
Salut.
Bisous. Bye bye.
Campus Paris.